Un jour, un enfant qui découvrait la mer m'a demandé « L'océan, c'est quoi l'océan ?»
Lors de sa venue à Brest, à l'occasion de l'avant-première de son dernier film « Océan » le 12 décembre 2009, Jacques Perrin et une partie de l'équipe du tournage en ont discuté avec nous, avec des journalistes, lors d'une conférence de presse donnée au cinéma Le Liberté. De l'équipe du tournage et de la conception du film, il y avait Jacques Perrin, réalisateur, producteur, guide scénaristique et acteur dans ce film, Jacques Clouzot, co-réalisateur et guide scénaristique, François Sarano, guide scénaristique et conseiller scientifique, notamment océanographe, Stéphane Durand, également conseiller scientifique. Jacques Perrin répond tout d'abord à une première question d'un des journalistes, à savoir le temps qu'il a fallu pour mettre en place ce film, Océan.
Alors, je vais répondre à la première question. Le temps que ça a pris, mettre en place, je crois qu'on a, on n'a pas arrêté de mettre en place, on n'a pas arrêté de préparer et on n'a pas arrêté aussi de tourner le film. Donc c'est un film qui a été constamment en évolution, après les premières intentions, les premières écritures, et après réduction d'une écriture d'un scénario qui était un peu de fiction, un guide scénaristique pour aborder un film, hein, parce qu'on n'aime pas tellement la formule documentaire, on préfère la formule désigner le film comme étant un film. Et donc les tournages ont été lancés, les équipes formées, déployées à travers le monde, avec une technique qui se voulait innovante, qui se voulait. Mais c'était un rêve, c'était une aspiration. Et au départ, on ne maîtrisait pas toute la technique espérée. Et au bout de 4 ans, on est arrivé. Il y a même des machines qui servent comme écriture. Hein. La technique, ce n'est pas la technologie qui est importante pour nous, c'est le moyen d'expression et, disons, l'émotion que l'on peut atteindre grâce à la maîtrise de la technique. Et encore, il y avait le salon nautique il y a une semaine, et on avait un des responsables de la mise au point de ces machines qui s'appelait Jacques Fernand Perrin, et qui, encore il y a une semaine, mettait au point encore la machine qui nous permettait de suivre les animaux, les dauphins, le sardine run, qui est à la surface de la mer. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images ce matin, c'est une bande sauvage de 5000 dauphins qui fonce à travers la surface. Donc ça a été un film qui a été constamment en évolution. Ça a été 2 ans de préparation, 4 ans de tournage, et puis 1 an de finition. Et voilà, puis un beau jour, il fallait bien qu'on s'arrête à la grande tristesse de tous les gens, de tous les techniciens, les opérateurs qui ont travaillé sur le film. Donc s'arrêter au bout de 7 ans, ça devenait raisonnable.
Jacques Clouzot, co-réalisateur, répond à une question d'une journaliste, à savoir s'ils avaient pu continuer à tourner, est-ce qu'ils auraient eu des envies de rencontres avec des espèces établies préalablement par le guide scénaristique. Jacques Clouzot.
Au cours de la préparation du film, nous avons élaboré un guide scénaristique, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait déjà une direction vers certaines, plus que vers des espèces, vers des séquences de films que l'on cherchait, qui représentent la vitesse sur l'océan, qui représentent la tendresse, qui représentent les festins de la mer. Voilà, on était plus dans ce que l'on cherchait à créer comme émotion, comme scène, en fait, plus que une recherche pure et dure d'espèces. Malgré tout, évidemment, pour illustrer, enfin pour se dire voilà qui va le mieux servir ce que l'on recherche, eh bien on a choisi entre des milliers d'espèces pour finalement aboutir à 80 espèces qui sont dans le film. Pendant la durée du tournage, nous avons été amenés à rencontrer des espèces que l'on ignorait, qu'on ne connaissait pas du tout, ou bien des comportements qu'on n'avait pas prévus. Sont les scientifiques qui nous ont accompagnés, qui parfois nous ont offert de nouveaux sujets. Alors, puisque la question c'était quand s'arrêter, on s'arrêtait après 480 heures de rush pour un film qui aujourd'hui fait 1h43, c'est-à-dire quelque chose comme 0,4% des images tournées. Alors, il faut s'arrêter, on aurait pu continuer encore, mais malgré tout, on avait entre les mains des merveilles. Et qu'on a essayé d'exprimer dans le film.
Alors comment on gère d'ailleurs ces animaux qui sont des acteurs? Comment on fait pour placer la caméra, pour placer tout ça dans un décor, enfin dans un décor réel. Je sais pas si...
Dans le film Océan, il y a des espèces qu'on n'a jamais vues. Elles sont quelques-unes, fantastiques, mais peu nombreuses. La plupart des espèces du film sont déjà connues. Donc la question était de comment les filmer autrement, comment les redécouvrir. Eh bien, pour ça, il a fallu inventer un certain nombre d'outils pour particulièrement éviter de voir passer l'animal, de le voir rejoindre un plongeur et s'éloigner dans le bleu. Il fallait pouvoir le suivre. Et pour le suivre, eh bien, c'est l'invention d'outils qui sont destinés non pas à faire une performance technique ou technologique d'invention, mais tout simplement à accompagner l'animal, à bouger avec lui, à aller très vite avec lui. Et à partir de là, on découvre un animal qu'on croit connaître, qu'on a déjà vu, mais jamais comme ça.
François Sarano.
Je rajouterais quand même qu'on ne gère pas des espèces sauvages. On prend le temps pour qu'elles ne soient plus effrayées par les plongeurs, qui sont très calmes, très sereins dans l'eau, qui surtout font tout pour être le plus discret possible, et on attend que les espèces, que les animaux nous offrent une rencontre. Jamais on ne peut forcer les choses, jamais on ne peut aller au-devant des animaux parce que à ce moment-là, ils fuient, ils ne reviennent pas. D'autre part, sous l'eau, on ne peut pas utiliser de téléobjectif, et qui plus est, pour avoir véritablement ce sentiment, ce ressenti d'être poisson au milieu des poissons, nous avons systématiquement utilisé des objectifs grand angulaires pour être au plus près de, pour être comme si nous étions à côté d'eux à toucher. Donc cette volonté-là, elle ne peut être réalisée que avec le temps, le camp et le temps. Et beaucoup de calme.
Un autre journaliste a demandé à Jacques Perrin quelles ont été les relations de l'équipe du tournage avec le lieu Brest, la région Brest. On aperçoit en effet dans le film le remorqueur L'Abeille Bourbon du port de Brest et plusieurs séquences ont été tournées à Océanopolis. Jacques Perrin.
On peut répondre ? Oui, simplement dire que je disais tout à l'heure, on a presque l'impression, après ces 7 années passées, qu'il y a une terre d'origine du film. Et que cette terre d'origine, c'est Brest, c'est la Bretagne. C'est la Bretagne parce que, voilà, au large de Brest, il y a une belle mer qui est reconnue cinématographiquement comme étant une des plus expressives. Donc on l'a attendue, là, et au bout de 4 ans, finalement, on l'a trouvée. Et puis il y a Océanopolis qui a été un des partenaires du film. Océanopolis dans lequel nous avons fait... Dans le film, il y a différents animaux qui vont du plus grand de la baleine bleue, disons, à des animaux en devenir, c'est-à-dire qui ne sont encore que des larves, des œufs de crustacés, donc qui sont minuscules. Mais malgré tout, il y a déjà la vie qui est dedans. Et ce qu'on a essayé de montrer à l'écran, c'est le théâtre de la vie marine. Et même des œufs microscopiques, eh ben, dedans, il y a les battements, il y a le cœur qui bat, il y a cette vie qui s'exprime déjà. Donc comme notre film était un témoignage et qui se voulait un poème cinématographique, ce poème voilà, s'est inspiré de tous ces rivages, de toutes ces richesses. Et puis aussi, ce n'est pas dans le film, mais de tous ces navigateurs, de toutes ces personnes qui se sont aventurées sur les océans et qui ont commencé à bâtir la réalité de leurs rêves à Brest. Donc c'est une ville importante, c'est un territoire important pour nous.
Stéphane Durand.
C'est aussi la base de la Marine nationale. Il y a une longue histoire entre Galatée Film et Jacques Perrin et la Marine nationale. Et le bateau que vous avez vu dans le film, à côté de l'Abbaye Bourbon, il y a la Touche Tréville, qui est basée ici à Brest.
Et si on cherche un beau plongeoir, un beau point de non-retour pour plonger dans l'océan Atlantique, il n'y a pas meilleur endroit que Brest, parce que c'est là qu'on a démarré. On a démarré d'ailleurs ici, les premiers essais du film Océan ont été démarrés dans la baie de Brest, avec tout un tas de gens qu'on avait connus ici, déjà sur un film qu'on avait fait en IMAX avant, avec L'Abeille Bourbon, qu'on avait filmé pour le Futuroscope 2 ans avant.
Jacques Perrin.
Mais simplement dire sur le sens, pour donner une sensation de l'image, Stéphane Durand a raison de rappeler que c'était la Marine nationale. La Marine nationale, dans tous les films de fiction et dans toutes les images qui ont été projetées jusqu'à présent, les opérateurs, les cinéastes ont essayé de s'approcher de ce théâtre fantastique, prodigieux, dramatique, on ne peut plus enthousiasmant, sur les tempêtes, sur le grand océan. Et là, avec la Marine nationale, avec des collaborateurs, on a pu aller chercher les vagues qui, jusqu'à présent, cinématographiquement, je crois, n'existaient pratiquement pas. J'ai en souvenir un film américain qui était The Perfect Storm, La Tempête, où il y avait une mer qui était peut-être un peu plus grande que celle que nous avons filmée. Sauf que, dans The Perfect Storm, c'était des effets spéciaux. Et nous, on est arrivé aussi à créer une colline de vagues gigantesques, et seulement elle était réelle. Et quand on voit un bateau, un aviso, ou une frégate qui font plus de 100 mètres de long, qui est complètement chahutée par les éléments, chahutée par les éléments en furie, ça donne une dimension de ce que sont les marins, ça donne une dimension comment appréhender la mer, et puis aussi ça montre en fait, ben voilà, cette espèce de solidarité d'une marine qui a bien voulu s'associer à notre peinture impressionniste de ce que sont les océans, ce qu'est la mer.
Il y a un peu de retouche numérique dans Océan, d'ailleurs. J'ai cru voir. À la fin du film, il y avait dans le générique, il marquait la retouche 3D, je ne sais pas.
Pas dans la tempête.
Mais pas dans la tempête.
Mais il y a des certains moments, des certaines scènes, le satellite. Quand on a un satellite, effectivement, on se trouve à 300 km de la Terre. C'est bien, parce qu'on a l'impression, mais comment ils ont fait pour remonter, de démarrer de la tempête et puis aller au-dessus de la stratosphère et de filmer la planète bleue? Comment ils ont fait? Comme on a fait, on a pris des effets spéciaux qui ne sont pas américains, qui sont français, qui sont talentueux et qui nous donnent le vertige et puis la sensation de la beauté indicible de cette planète bleue. En tout cas, en ce qui concerne la tempête, les images sont réelles, les vagues ont vraiment frappé la baie Bourbon, comme vous l'indiquiez, la Marine nationale, et ont frappé les rochers, toute la côte de la Bretagne, et c'est ce tableau impressionniste qui est rendu compte dans le film.
François Serrano.
Dans la gare maritime de Cherbourg, on a utilisé des effets spéciaux pour recréer le musée imaginaire dans lequel Jacques et son fils Lancelot rentrent et découvrent toutes les espèces qui ont disparu du fait de la surexploitation humaine, qui sont menacées aujourd'hui, et toutes celles qui sont déjà vulnérables et prêtes à rentrer dans le cortège des espèces disparues si nous ne faisons rien. Là, effectivement, les plus grosses baleines sont des baleines virtuelles. Elles ont été refaites après pour habiller cette immense gare maritime qui est aujourd'hui à Cherbourg.
Pour dramatiser un petit peu aussi.
Dramatiser ? En 2007, le dauphin du Yangtze-Kiang a disparu. C'est ça le vrai drame. Nous le savions, les scientifiques nous avaient avertis, nous avons laissé faire. Ça, je trouve que c'est un drame. Et ce n'est pas la faute des baleiniers du 19e siècle ou du 20e siècle, c'est notre responsabilité. Le drame, il est là. Et ce qu'il y a de plus dramatique, c'est que nous ne faisons rien, nous ne tirons aucune leçon de ça, puisque aujourd'hui encore, le marsouin de la mer de Cortès, le dauphin de Hector, le marsouin du Yangtze-Kiang sont dans la même situation. Et je vois que ni les gouvernements, ni la société civile ne se mobilise véritablement. Alors, s'il vous plaît, mobilisez-vous, ça vaut la peine, parce que ça marche dans la plupart des cas, lorsque chacun d'entre nous, nous le voulons.
Une autre journaliste demande à Jacques Perrin si ce film a été réalisé pour réaliser un vieux rêve, ou avec l'idée écologique qu'il contient, puisqu'il y a 7 ans, quand le tournage du film a commencé, on n'avait pas encore les idées aussi claires sur les problèmes écologiques tels qu'on a aujourd'hui.
C'est un rêve, oui. Sans doute, on aspire, quand on est cinéaste, à exprimer certains sentiments, à certains théâtres de la vie, un peu surtout dans des films qui se veulent naturalistes. Mais c'est pas simplement ça. Il y a un courant de sensibilisation, comme ça, à la protection, à l'environnement, qui est plus ancien que 7 ans, qui date. Nous, on a fait un film, moi j'ai fait un film produit qui s'appelait Microcosmos, et c'était déjà dans cette approche, cette fenêtre ouverte sur la nature, et qui était plus ancienne avec Gérard Vienne, il y a 20 ans, avec un film qui s'appelait Le peuple singe. Donc on continue, mais à un certain moment, il y a aussi un sentiment de faire un cinéma qui n'est pas inutile. De faire un cinéma aussi qui porte un témoignage, de faire un cinéma qui n'est pas simplement que spectaculaire, mais qui a son point de vue aussi, qui exprime son point de vue. Et en plus, sans didactisme, sans leçon de morale, sans cours, voilà ce qu'il faut faire ou pas faire, mais qui met le spectateur et le citoyen de la planète par rapport à son théâtre de la vie, ce qui l'entoure. Ce qui l'entoure, c'est les forêts, c'est la campagne, et ce qui l'entoure aussi, c'est les côtes. Voilà, c'est les estuaires, c'est ce qu'est l'océan. Et on a voulu montrer ce qu'était l'océan, la nature vivante de l'océan, et aussi les natures qui y sont abritées, qui devraient être abritées. Mais on sait que la mer est agressée. La mer est agressée par la surpêche. Elle est agressée aussi par la pollution. Et de ça, on voulait en témoigner, mais en témoigner non pas pour faire un film sur la catastrophe prévisible. C'est vrai qu'on est au bord. C'est vrai que le précipice n'est pas loin. Mais les bonnes volontés, les associations, puis le désir des citoyens de la planète, c'est que non. On a un théâtre qui est encore un théâtre merveilleux de la vie sur les océans. Et ça, il peut être sauvé. Et il peut être sauvé si tous nous le voulons. Et si nous le voulons, c'est l'opinion générale. Donc on va demander et on demande aux instances, au gouvernement et aux instances internationales type l'ONU à prendre les décisions pour que le grand océan qui appartient à tous et à personne, et c'est-à-dire où on peut faire n'importe quoi, on ne fasse plus n'importe quoi et qu'on commence à respecter cet océan dont nous avons besoin.
Demande à l'équipe du tournage du film Océan s'il y a eu des moments, 7 ans de tournage, qui sont apparentés à des cauchemars avec des envies de tout laisser tomber. Jacques Clouzot.
Non.
Stéphane Durand.
Oui. L'envie, c'était sans doute continuer, en fait, mais il fallait bien, un jour ou l'autre, présenter ce film au public, parce que c'est quand même la finalité. Mais après 4 ans de tournage, 3 ans de préparation, 1 an de post-production et de montage, on a encore plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire sur les océans, il y a plein de choses qu'on n'a pas filmées. Voilà, l'aventure pourrait continuer.
Non, mais... puis c'est pas seulement ça. Oh, pardon. Mais nous ne sommes pas résignés, pas du tout. Et puis, les citoyennes ne sont pas résignées. Il y a des exemples. La mer est toujours vivante, ça peut repartir. Il y a des exemples de sanctuaires qui existent un peu partout, peut-être en Méditerranée, qui existent sur l'Atlantique, qui existent sur toutes les mers du monde. Et dans des sanctuaires, la mer repart, pourvu que la mer soit protégée. Et les espèces réapparaissent. Le porc-croc en Méditerranée, le mérou qui avait disparu de la Méditerranée il y a 20 ans, il est reparti, il est là, on le trouve. Et que les plongeurs qui vont regarder les merveilles, elles sont là, les merveilles. Hein, elles sont sous la surface de l'océan. Mais c'est vrai que les plus grands espaces qui sont le milieu des océans deviennent et sont devenus, ou étaient déjà en partie, désertiques. Mais il suffit d'insouffler la vie. Les grands courants traversent toujours les océans. Et les grands courants sont porteurs, voilà, des nourritures, de la vie, des œufs qui vont porter la vie. Donc si on protège ça, la mer, elle partira toute seule. Elle a besoin de personne, elle a besoin simplement que, voilà, on n'agresse pas. C'est tout ce qu'elle a besoin.
Alors dans le film, il y a, à partir du moment où on est dans le documentaire, on peut se poser la question de l'anthropomorphisme. Est-ce que ça ne se retrouve pas dans le tournage? Est-ce qu'il n'y a pas le regard de l'homme, finalement, dans les actions? Quand il y a beaucoup de scènes qui sont scénarisées. Je pense à l'attaque des oiseaux.
Ils ne sont pas scénarisés. C'est le grand metteur en scène de ce film, c'est la nature. On a été tout simplement observateur de ce formidable directeur de cinéma qu'est la nature. Et anthropomorphisme, pendant 1h15, nous sommes au milieu des animaux. Nous sommes poissons parmi les poissons. Et non seulement ça, on cherche le regard des animaux. Et ce regard des animaux nous interpelle le spectateur. En aucune façon, il y a anthropomorphisme. Dieu sait si on y était attaché, parce que ce sera un commentaire. Et s'il y a commentaire, on va chercher des images qui illustrent notre propos. Non, il n'y a pas de propos. Il y a des images de la vie. Et on a laissé, d'une certaine façon, la parole à des animaux qui n'ont pas de parole. Mais ils s'expriment quand même.
Tout D'ailleurs, jusqu'au début, l'homme est juste en arrière-plan. On voit un bateau au loin, on voit. Il intervient plus à la fin du film. C'est pour laisser s'installer justement la magie de la nature, la poésie. Et après, parce que c'est assez, je trouve, bouleversant à la fin, justement, quand on se rend compte que toute cette poésie est remise en cause par. Et ça place le spectateur dans une situation assez désagréable. François Serrano.
C'est exactement ça. Et c'est parce que justement, on a laissé la nature s'exprimer complètement, on vous a immergé à côté des animaux, que vous avez ressenti l'agression comme les animaux le ressentent. C'est pour le coup, c'est parce qu'il n'y a justement pas d'anthropomorphisme, c'est parce que justement nous sommes le plus éloignés possible du théâtre du vivant qu'on reçoit en pleine poitrine, dans plein ventre, les agressions que nous faisons à la mer.
Mais bien d'accord, hein. C'est vrai, il y a les agressions qui appartiennent au bout d'une heure et quart, 1h20 de film, mais ce n'est pas la dernière touche, ce n'est pas la dernière image du film. L'image, les dernières images, les derniers sentiments proposés dans le film sont porteurs d'espérance, parce que l'espérance est là. Encore une fois, je vous dis, si on le veut, l'océan peut repartir. Donc on a montré l'impact, l'horrible agression de l'homme, mais on a montré aussi qu'il y a d'autres hommes, qu'il y a d'autres associations, qu'il y a d'autres volontés qui sont là et qui aiment la mer, et qui aiment la mer et qui la protègent. Donc sans mots, vilains mots philosophiques, humanistes, comme ceux que je viens de dire, il n'y a pas de mots dans le film. Donc c'est induit, et s'il y a une narration qui exprime l'espérance, c'est le spectateur qui le ressent à travers son cœur.
Merci. Je vous remercie.
Un jour, un enfant qui découvrait la mer m'a demandé « L'océan, c'est quoi l'océan ?»
Et voilà, c'était un enregistrement de la conférence de presse donnée par quelques membres de l'équipe du tournage du film « Océan » le 12 décembre 2009. Au cinéma Multiplex de Liberté pour une présentation en avant-première. On a donc entendu Jacques Perrin, réalisateur, producteur, guide scénaristique et acteur. Jacques Clouzot, co-réalisateur du film. François Serrano, guide scénaristique, conseiller scientifique en tant que docteur en océanologie et plongeur professionnel. On a entendu également Stéphane Durand, biologiste, ornithologue, journaliste scientifique, et pour les besoins du film, il a été guide scénaristique. Il avait participé aussi à la conception du film Le Peuple Migrateur en 2001 avec Jacques Perrin, dont on peut rappeler aussi qu'il a produit le film Microcosmos en 1996. Mais le mercredi 27 janvier 2010, c'est bien le film Océan de Jacques Perrin et Jacques Clouzot que nous vous invitons à aller voir en salle. C'était une conférence de presse enregistrée, mixée, réalisée par Johan Vincent pour Radio U.